Interview.
1 sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et nouveau compte rendu de mandat radiophonique avec Corinne Morel d'Arleux. Bonjour.
Bonjour.
De retour après cette plénière des 28 et 29 mars à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une plénière avec plusieurs sujets. C'était plus ou moins le budget ? Qu'est-ce qu'on vote ? Qu'est-ce qu'on met ?
Ouais, c'était surtout une grosse délibération, en fait, qui effectivement, du coup, oriente pas mal le budget, puisqu'il s'agit de ce qu'on appelle le SRADET, dans le jargon technocratique de la région.
À vos souhaits.
Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement équilibré des territoires. C'est-à-dire que concrètement, c'est là-dedans qu'on met, en fait, pas mal de choses, un peu pêle-mêle, parfois des choses qui, d'ailleurs, n'ont pas grand chose à voir avec le SRADET en tant que tel, mais normalement c'est l'aménagement du territoire sur l'ensemble de cette grande région Auvergne-Rhône-Alpes, avec du coup des sujets qui ont trait à la fois au transport, à l'énergie, à l'urbanisme, voilà, à tout un tas de sujets qui nous intéressent en tant qu'habitants de cette région.
Est-ce qu'il y aurait des grands exemples comme ça ?
Ouais,
quand
alors.
On pense à l'autoroute, est-ce que ça.
C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple parce que ça fait partie des choses qu'on reproche un peu à ce schéma régional, ce SRADET. C'est qu'il est pétri de bonnes intentions dans le texte, c'est-à-dire qu'il y a plein de principes de développement durable, de préservation des paysages, des terres agricoles, etc. Mais ça a quand même été aussi l'occasion pour Laurent Wauquiez et sa majorité de réaffirmer par exemple leur soutien à l'autoroute, au projet d'autoroute A45. Projet d'autoroute qui pourtant a été maintenant retoqué par le gouvernement, mais que la région continue à soutenir envers et malgré tout, alors même qu'il a été de fait abandonné par l'État. Donc c'est voilà un exemple des contradictions qu'il y a entre l'affichage de bonnes intentions qui sur le papier vont plutôt dans le bon sens et puis la réalité des politiques qui sont mises en œuvre. Donc cette autoroute, ce projet d'autoroute en est un exemple.
Mais concrètement, la région va se le payer tout seul ?
Non, concrètement, la région ne pourra pas se le payer tout seul, mais continue à faire du lobby pour que cette autoroute voie le jour. Avec en réalité une majorité qui est pour le coup assez divisée dans les rangs de Laurent Wauquiez sur ce sujet, comme sur d'autres d'ailleurs, hein, puisque nous avons eu un petit coup de Trafalgar dans la majorité de Laurent Wauquiez à l'occasion de cette session, puisque le groupe du MoDem s'est scindé en deux. Avec 5 élus MoDem sur 7 qui ont officiellement acté qu'ils quittaient la majorité de Laurent Wauquiez. Alors c'est vrai que comme ils sont en même temps macronistes au niveau national, c'était un peu compliqué d'être avec la majorité d'Emmanuel Macron au niveau du Parlement et avec la majorité de Laurent Wauquiez au niveau régional. Donc ça a été officialisé et donc il y a maintenant 5 élus MoDem qui ont repris leur indépendance de ton par rapport à la majorité.
Ce qui du coup joue une opposition hein, là,
Potentiellement joue une opposition. Alors après, très honnêtement, hein, il manque davantage que 5 voix pour mettre en ballotage les décisions de Laurent Wauquiez qui continue à avoir une majorité très confortable dans l'hémicycle. Mais enfin, c'est pas inintéressant et c'est pour moi toujours un signe de démocratie et de bonne santé de nos débats quand des élus se sentent moins obligés de voter tout ce qui passe, qu'ils soient d'accord ou non.
Pour aller plus loin, là, quand on parle de l'aménagement du territoire, ce serait donc les subventions que la région s'apprêterait à allouer à tel ou tel type de projet. Je pense que ça peut aller jusqu'à de l'aménagement urbain, planter des arbres peut-être, enfin, ça pourrait aller dans le bon sens aussi, et donc ça va être de nouveau arbitré plus tard.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que là en fait on rentre pas dans le détail des subventions, mais c'est les grandes lignes. C'est-à-dire que, par exemple, dans les grandes lignes, dans ce SRADET, on va trouver la lutte contre la pollution visuelle. aux abords des villes. Bon, ce qui n'empêche pas la région de continuer à demander à ce que pour chaque euro donné à une commune, le panneau de la région avec le logo soit planté en entrée de ville. En matière de pollution visuelle, on peut se demander effectivement si ça ne devrait pas rentrer là aussi dans les choses à éviter.
Il n'est pas beau ce logo.
C'est-à-dire que c'est quand même assez étonnant parce que cette espèce de systématisme à mettre le logo de la région partout où on finance le moindre pot de fleurs commence à agacer quand même sérieusement. Et alors là, pour le coup, tout bord politique confondu, des maires de petits villages et puis des habitants un peu partout qui ont un peu ras-le-bol de voir ces panneaux qui fleurissent, y compris dans des coins où il n'y a pas de panneau autre que celui-là quasiment, à part le code de la route, quoi. Donc voilà, par exemple, c'est aussi en matière d'énergie les grandes orientations. Donc ça a été l'occasion là pour le coup pour Laurent Wauquiez de redire son opposition au développement de l'énergie éolienne dans la région, avec une position qui est assez ambiguë, puisque d'un côté Laurent Wauquiez mène une charge assez forte contre les projets d'éoliens industriels et spéculatifs, ce qui pour le coup ne me choque pas, puisque effectivement il y a des grandes entreprises qui ont flairé le marché juteux et qui vont installer des éoliennes dans le seul but de faire du profit, avec une énergie qui est concentrée en termes de production à un endroit et puis ensuite redispatchée pour aller être consommée plus loin. C'est pas le développement de centrales villageoises ou de petites éoliennes destinées à la consommation locale comme on en rêverait. Sauf que évidemment, en faisant ça, il donne de l'eau au moulin des opposants à l'éolienne qui ne font pas dans le détail et qui refusent toute implantation d'éoliennes sur leur territoire. Ce qui est comme l'aime très très problématique en matière de développement des énergies renouvelables dans notre région, et ce qui est d'autant plus problématique quand on met ça en face d'autres déclarations récentes de Laurent Wauquiez qui souhaite voir l'installation sur le site du Tricastin d'un EPR. Ces nouveaux réacteurs, nouvelles technologies qui...
Qu'on n'est pas encore capable de finir d'ailleurs.
Qui en réalité ne fonctionnent nulle part, puisque tous les chantiers ont pris des années de retard, avec un surcoût absolument faramineux du coup, pour la collectivité également, si la région devait se lancer dans une telle aventure. Et donc, moins d'éoliennes, plus de PR ne donne pas un mix énergétique, comme on dit, très très favorable aux questions environnementales, de sobriété énergétique et de développement des énergies renouvelables. Donc voilà le genre de choses qui se dessinent à travers ce SRADET. Nous, on a essayé de faire des amendements qui permettent de rééquilibrer un peu ce schéma régional. On avait fait déjà une contribution, c'est-à-dire que concrètement, deux des élus de notre groupe, Jean-Charles Collas et Fabienne Grébert, ont piloté un certain nombre de réunions publiques un peu partout dans la région, de réflexions, d'appels à contribution pour rédiger ce que serait, nous, notre SRADET pour une région davantage sociale, écolo, résiliente. Et donc, on a versé cette contribution au débat, comme ça nous avait été suggéré d'ailleurs par Brice Hortefeux, qui est l'élu qui pilote ça pour la région.
Pardon, d'ailleurs, vous êtes du coup mandaté là pour la région pour le faire, ou c'est vraiment quelque chose que vous faites quand même de votre côté avec vos moyens?
En fait, on a été invité à le faire par Brice Hortefeux. Donc on l'a fait, clairement avec nos moyens, voilà. C'est-à-dire avec rien en fait. Mais on a pris sur notre petite enveloppe budgétaire pour le faire, pour l'imprimer, pour mener les débats et les concertations. Malheureusement, malgré nos demandes, cette contribution n'a pas été rendue publique ou envoyée à l'ensemble des élus, ce qui est un peu dommage. Donc du coup, on l'a portée à travers nos amendements au SRADET, par le biais de pas mal de suggestions. On avait par exemple proposé, et ça peut intéresser nos auditeurs d'IWA, un amendement sur un moratoire concernant les centres commerciaux de plus de 2 500 m² pour réduire l'expansionnisme des surfaces commerciales et des centres commerciaux. comme on est en train de le voir ici à Die, hein, avec la construction d'un nouvel Intermarché qui visiblement prévoit d'ouvrir un Intermarché Drive pour qu'on puisse se rendre en voiture, faire ses courses, et puis avec le déménagement programmé du centre-ville de Die en périphérie de ville sur une des dernières terres agricoles plates et exploitables d'ailleurs de la commune. Donc pour limiter ça a été retoqué avec un Laurent Wauquiez qui nous a expliqué que c'était déjà écrit. Alors c'est dommage parce qu'on n'a pas la possibilité de reprendre la parole après sa réponse. J'aurais aimé l'inviter à venir dans le DIY et à nous dire comment on faisait pour s'opposer à cette expansion des centres commerciaux en périphérie de ville qui risque bien de tuer le petit commerce dans notre bourg en centre. Comme il le dit régulièrement, en réalité, il n'y a pas de législation régionale aujourd'hui opposable qui puisse nous permettre de faire ça. Donc cet amendement-là, en l'occurrence, a été retoqué. Un autre, par exemple, a été adopté sur le fait d'encourager la diminution à la source au moment de la production des déchets d'origine fossile, c'est-à-dire concrètement de réduire les emballages plastiques, par exemple. Puisque la question des déchets et de la gestion des déchets fait également partie de ce schéma régional. On verra évidemment, on suivra attentivement la manière dont cela peut se mettre en place et se décliner au niveau de la région.
Mais soyons concrets, par exemple, comment ça peut ? Est-ce que la région pourrait déjà elle-même ne plus acheter des choses trop emballées, etc. Ce qui serait effectivement un premier pas. Imposer ça dans ses lycées, ça irait jusqu'où ? Parce que...
Elle pourrait, c'est-à-dire que concrètement, elle pourrait effectivement s'appliquer à elle-même le fait de réduire ses propres déchets et ses emballages plastiques. Elle pourrait effectivement demander au lycée, en les aidant à le mettre en place, de le faire également. Elle pourrait aussi tout à fait décider, puisqu'elle gère maintenant le développement économique et les aides aux entreprises, eh bien de conditionner les aides aux entreprises à des objectifs de diminution de ces emballages. Donc il y a plein de choses en réalité que la région pourrait faire. Malheureusement, souvent elle s'engage à aller dans le sens d'eux, mais sans forcément que cela se traduise derrière, puisque conditionner par exemple les aides aux entreprises va à l'encontre d'une certaine logique libérale de laisser faire qui a tendance à plutôt faire confiance au marché pour s'autoréguler, ce qui malheureusement en matière de pollution et d'environnement, comme on peut le constater tous les jours, ne va pas de soi. Donc plutôt que de mettre en place des conditions, la région laisse faire jusqu'ici et ça va dans le sens qu'on voit tous les jours, c'est-à-dire que concrètement les emballages plastiques ne se réduisent pas plus que les autres sources de pollution.
Ce qui est quand même étonnant, mais on le rappelle à chaque fois à cette antenne et en votre compagnie, c'est qu'effectivement la région, si elle ne conditionne pas sa distribution de financement, n'a absolument aucun impact politique, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Laurent Wauquiez dit qu'il veut plus paquet d'éoliennes, mais ça changera rien. Si elles y sont, elles y seront. Dans les deux sens, ça ne sert à rien de ce discours, on a l'impression, non ?
Alors, en fait, la difficulté à laquelle on se heurte au niveau des politiques régionales, c'est que on n'arrive pas à avoir de conditionnalité et de critères écrits et précis et transparent et qui aille en plus dans le bon sens au niveau des marchés, des appels d'offres, des libérations régionales. Par contre, on est bien obligé de constater que de fait les aides sont ciblées et fléchées. Quand on regarde les aides en matière d'agriculture par exemple, on voit bien qu'aujourd'hui l'ensemble des dispositifs passent, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici, exclusivement par les chambres départementales d'agriculture et de fait bénéficient indirectement beaucoup à la FNSEA ou aux syndiqués de la FNSEA localement.
Mais majoritaire ça, dans les chambres.
Voilà, mais ça c'est pas des conditions écrites. De la même manière, quand vous avez tout un pan de politique en matière d'éducation à l'environnement ou de préservation des milieux naturels qui sont réattribués aux fédérations locales de chasse, c'est un fléchage des aides vers les fédérations locales de chasse qui ne correspond pas à des critères qui aient été débattus ou qui soient vérifiés en termes d'obligations et d'atteinte des objectifs. Donc voilà, c'est vraiment deux conceptions en fait différentes de la mise en place. Et c'est vrai que jusqu'ici, avant, on avait ce qu'on appelait les CDDRA, les contrats locaux de développement des territoires, qui donnaient lieu à de la concertation locale où les acteurs de chaque territoire se mettaient d'accord sur ce qu'ils voulaient mettre en avant, sur les critères, et décidaient ensemble de l'attribution des subventions. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus, et ça fait que ça donne souvent cette impression de fait du prince, et voire de clientélisme sur l'attribution des aides, puisqu'il n'y a plus de cahier des charges qui soit connu et discuté localement pour flécher l'ensemble de ces subventions régionales.
L'occasion de rappeler que les Républicains sont en campagne européenne, hein, comme tout le monde, face notamment au camp de Macron, et qui lui reproche exactement ce que vous êtes en train de dire, hein, qu'il fait du clientélisme et que c'est le fait du prince.
Oui, malheureusement, il n'y a pas d'exclusivité en la matière, et le milieu politique est assez coutumier du fait, et je dois dire qu'effectivement ça déborde les clivages partidaires, hélas.
Après ça, on rigole un peu, surtout avec le titre, on va parler de l'ambition cheval.
Oui.
Alors, ça n'a rien à voir avec le palais du même nom, mais peut-être plus sur des projets d'utiliser un peu plus le cheval.
Alors effectivement, donc on a vu arriver ce plan ambition cheval qui dépend de la commission agriculture, et donc j'ai senti que ça allait être pour moi au niveau du groupe. Voilà, moi je suis pas très branchée cheval, je dois dire, mais du coup je me suis
branchée agriculture.
Mais par contre voilà, et du coup je me suis penchée sur le sujet que je connaissais que de loin, comme tout le monde. Le but du jeu de ce plan ambition cheval pour la région, en réalité, c'était de regrouper des aides à la filière équine qui étaient dispersées un peu partout. C'est-à-dire qu'il y en avait un petit peu en agriculture sur la filière élevage et viande. Il y en avait un petit peu en sport sur les courses et les hippodromes. Il y en avait des petits bouts au niveau du tourisme sur tout ce qui est randonnée équestre et aménagement de gîtes pour accueillir les cavaliers. Voilà, donc il y en avait des petits bouts un peu partout, et là l'idée était de tout regrouper de manière à ce que ce soit plus lisible pour les bénéficiaires, et puis de redonner un peu les grandes orientations là aussi de la région en matière de développement de cette filière. Donc c'était pas inintéressant en réalité, si ce n'est que on avait un gros doute sur le fait d'aider les hippodromes et les courses hippiques, qui en réalité sont déjà financés en grande partie par le PMU et donc qui en plus voilà alimente les paris sportifs du PMU, le fait de parier sur des courses, et une vision plutôt mercantile du cheval qui est pas forcément notre dada, si je peux me permettre. Donc nous avons
sans parler d'addiction, hein.
Voilà. Exactement, donc ça pose quand même pas mal de soucis. Donc on a voté contre cette partie du rapport. Il y avait des choses sur la question des centres équestres qui n'étaient pas inintéressantes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits centres équestres qui font du bon boulot, et notamment en termes d'accessibilité aussi à des personnes plus éloignées de ce genre de pratique, ou des personnes en situation de handicap, ou des jeunes tout simplement. Et donc on a essayé d'apporter un amendement permettant la démocratisation, c'est-à-dire concrètement d'avoir des tarifs plus accessibles justement pour les précaires ou les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'a pas été retenu. Mais en revanche, un autre amendement qui a été défendu, il me semble, par le PRG, permettant de mettre un bonus sur ces aides à des centres qui font un travail particulier en matière d'environnement, de bien-être animal, justement d'accessibilité pour les précaires, les personnes en situation de handicap, a été adopté, lui. Donc ça allait plutôt dans le bon sens. Et puis il nous semblait surtout qu'il y avait un gros manque, et c'est ce que j'ai défendu, sur la question de la traction animale.
Et oui.
C'est-à-dire qu'on voit bien que de plus en plus, et ça c'est une vague qui bénéficie aussi tout simplement de la situation gravissime en termes d'écologie et d'environnement dans laquelle on est, et du constat que il va falloir sortir des énergies fossiles, du tout pétrole en matière de mobilité, en matière de déplacement, fait que le cheval est de plus en plus réutilisé À la ville comme à la campagne d'ailleurs.
Bel exemple de Perpignan hein, qui l'utilise comme transport scolaire.
Tout à fait. Alors soit en transport scolaire effectivement et ça fonctionne plutôt bien même si ça pose des questions hein, parce qu'un cheval voilà, quand ça se met à l'arrêt ça continue à vivre hein, donc il faut s'en occuper. Il y a des questions d'entretien, d'alimentation, etc. Mais enfin c'est quand même beaucoup moins nocif en termes de pollution que des cars et des voitures. Donc il y a plusieurs communes qui ont mis en place effectivement du transport scolaire en calèche ou en traction équine. Il y a des villes aussi comme à Bourg-en-Bresse qui font le ramassage des déchets avec le cheval. Et puis en matière agricole, eh ben, il y a de plus en plus de fermes ou de vignes d'ailleurs. C'est le cas également dans le Diois du côté de Châtillon qui utilisent des chevaux pour le labour, pour un certain nombre de travaux agricoles. Et donc on a déposé et j'ai défendu un amendement pour que la traction équine fasse partie des activités que la région soutienne, qui est aussi une aide à la formation, au développement, au matériel, enfin voilà, qu'on soutienne aussi cette utilisation qui est très large, qui va d'ailleurs aussi sur la forêt pour le débardage, parce que c'est évidemment beaucoup moins mauvais pour les arbres encore en place et puis pour les sols. Il y a moins de tassement de sol, moins de destruction avec les chevaux.
Ça réglerait pas mal de problèmes pour le Vercors, par exemple.
Voilà. Et puis en plus, on a des espèces rustiques, polyvalentes qui existent, qui gagneraient d'ailleurs à être préservées par le biais de ces activités. Voilà, malheureusement, cet amendement sur la traction équine et sur les moyens afférents n'a pas été retenu. Mais je, voilà, on a senti quand même un intérêt du côté de la majorité. Donc peut-être que, même si c'était difficile de nous accorder peut-être cet amendement, au moins on a peut-être semé une petite graine et peut-être qu'on verra fleurir un jour un petit plan sur la traction équine et sur la traction animale de manière plus générale.
Si au moins ils se sont rendus compte que sur leur territoire il y avait un exemple concret à Bourg-en-Bresse que je ne savais pas, ils pourraient aller tester
oui,
les statistiques.
Oui, malheureusement je dois dire que le maire de Bourg-en-Bresse est socialiste et que c'est le président du groupe socialiste la région, donc je ne suis pas sûre, hélas, que cela fonctionne en matière d'encouragement pour la majorité des Républicains.
C'était ma question suivante, de quel bord était le maire ? Bah voilà. Ambition cheval, donc, en tout cas, ça fait partie des discussions un peu étonnantes que vous pouvez avoir. Une petite autre chose rigolote, parce que vous aviez envie de le dire, vous n'avez pas financé le canon à neige cette fois-ci.
Ouais, c'est la première fois.
depuis combien de temps ?
Et ben, depuis le début du mandat, je crois, c'est-à-dire en fait depuis qu'on a voté ce fameux plan neige, eh bien, je crois que c'est la première fois qu'il n'y a pas de rapport en commission montagne visant à financer des canons à neige.
Mais pourquoi ?
Eh bien, c'est une bonne question. Cela dit, je voudrais quand même rassurer nos auditeurs, puisque il vient d'y avoir là en 3 jours 2 articles successifs dans la presse quotidienne régionale. L'un faisant dire à Gilles Chabert que du côté de la neige artificielle, selon les propos de Monsieur Vauquier, c'était open bar, je cite. Texto. Et puis à nouveau un hier, je crois que c'est dans le Dauphiné Libéré, où Laurent Vauquier lui-même redit que sur la neige, la région est sans limite, là aussi je cite. Donc nous devrions à nouveau voir arriver des dossiers de financement de la neige artificielle. Bon, cela dit, je tiens également à dire, pour être tout à fait honnête avec nos auditeurs, que nous avons appris de la bouche de Laurent Vauquier lui-même pendant cette assemblée plénière qu'il reconnaissait ne pas savoir ce que voulait dire en fait le mot résilience qu'on utilise beaucoup, qu'on a beaucoup utilisé au moment de la session budgétaire à la fin de l'année dernière, qui depuis est beaucoup réutilisé par d'autres groupes. Et là, il a fini par dire qu'en fait, il ne comprenait pas ce qu'on voulait dire par ce terme-là. Alors, du coup, j'en profite. La résilience, en fait, c'est la faculté à s'adapter et à rebondir en cas de crise. Et donc, quand on parle aujourd'hui de résilience, notamment quand on est en train de parler d'environnement, de dérèglement climatique, eh bien, c'est tout simplement pour la région de mettre en place des cadres, des dispositifs, des mesures qui vont permettre, en cas de rupture d'approvisionnement alimentaire, en cas de rupture d'approvisionnement en eau, en cas de rupture d'approvisionnement en pétrole, en cas de sécheresse, voilà, toutes ces choses qui commencent à arriver et qui risquent de se multiplier dans les mois et les années à venir, eh bien de faire en sorte qu'on soit en mesure d'y faire face le mieux possible. Voilà, c'est tout simplement ça, la résilience. Ça passe par le fait d'avoir de plus en plus de terres agricoles pour se nourrir au niveau local. Ça passe par le fait, justement, de faire appel à la traction animale pour ne pas dépendre exclusivement du pétrole pour un certain nombre de travaux. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle effectivement la résilience, ou le fait d'augmenter notre capacité à la résilience. Et donc, on a prévu, à l'occasion de la prochaine session, de prendre le temps de faire davantage de pédagogie, ce qui est probablement une erreur de notre part, de ne pas l'avoir fait plus tôt, et peut-être qu'à la suite de cet effort de pédagogie de notre part, verra-t-on des modifications substantielles, qui sait, dans un certain nombre de politiques régionales, notamment concernant l'enneigement artificiel, qui pour le coup handicape notre capacité de résilience sur à la fois l'eau, l'énergie et un certain nombre d'éléments vitaux.
En plus de polluer un peu, au passage, le fait que Laurent Wauquiez avoue ne pas comprendre ce que veut dire être la résilience, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu, comme ça, biaiser les débats pendant très longtemps, ou est-ce que c'est un fait de communication? Alors, il a au moins pu aller une fois regarder sur Wikipédia, je sais pas.
En l'occurrence, je pense que c'était assez sincère de sa part quand il l'a dit, puis il l'a dit sans faire d'effet de manche, c'était au détour d'un débat sur un amendement. Donc c'était plutôt à la fois anecdotique dans la forme et assez révélateur sur le fond. Moi, qu'on ne sache pas ce que veut dire résilience, me choque pas du tout, parce que c'est vrai que ce n'est pas un mot qui fait partie du vocabulaire courant. Et je dis sans malice que nous aurions dû faire cet effort de pédagogie. Ce que je trouve en revanche moins excusable, c'est que ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle dans l'Assemblée, qu'on a l'ensemble de nos amendements au moment de la session budgétaire était orienté là-dessus. Tout le travail de contribution que nous avons fait sur le SRADET était orienté là-dessus. Et que, effectivement, ça ne prend pas beaucoup de temps d'aller vérifier, et qu'en quelques clics, on trouve très facilement aujourd'hui sur le web ce que veut dire ce terme. Et donc, de la part du président de région, c'est un peu surprenant tout de même. D'autant que, même si, voilà, ça ne fait pas partie du vocabulaire courant du grand public aujourd'hui, quand on est président de la deuxième région de France, je trouve que connaître ce terme et ce qu'il veut dire en termes de politique publique est quand même un minimum de ce qu'on peut exiger d'un président de région un peu responsable.
Et d'autant qu'il a d'autres ambitions. On va parler de ce débat qui s'est tenu pendant un bon moment et qui était, selon ce que vous me disiez hors antenne, particulièrement éprouvant, sur une délibération concernant l'antisémitisme. C'est d'époque, il faut réaffirmer, alors que le droit français est pourtant bien présent, qu'on est contre les antisémites. Un clash, le FN prend de la place, tout ça.
Ouais. Alors, ça a été effectivement un moment particulièrement pénible. Le débat sur cette délibération de lutte contre l'antisémitisme a eu lieu le vendredi matin. On était déjà en session depuis le jeudi matin, depuis la veille. Et le jeudi, toute la journée, Laurent Wauquiez a passé la journée en fait à modifier l'ordre du jour, à intervertir les rapports, à faire passer des choses qui auraient dû passer le vendredi dès le jeudi, pour des raisons qui nous sont inconnues, qui ont été un peu pénibles, parce que ça change tout le temps et que ça désorganise un peu l'emploi du temps. Mais en tout cas, qui a eu pour effet, je ne sais pas si c'était voulu ou pas de la part de Laurent Wauquiez, mais en tout cas, qui a eu pour effet que le vendredi matin, nous n'avions plus que ce rapport à voir. Et donc, il a pris une place particulière, puisque c'était le sujet unique à l'ordre du jour du vendredi matin. Et qui s'est tenu dans un contexte bien particulier, puisque il se trouve que la veille, une élue Les Républicains de la Loire, Sophie Rotkopf, qui est de confession juive, a fait l'objet de tags de menaces de mort antisémites, la visant nominément de manière extrêmement violente. Et c'est elle qui devait défendre cette délibération pour le groupe Les Républicains. Donc évidemment, tout ça crée une ambiance bien particulière. Et donc, cette discussion s'est ouverte dans une ambiance très solennelle de recueil, d'hommage et d'unanimité.
À condamner, quoi.
Voilà, et qui est à la fois une bonne chose, évidemment, s'il s'agit de condamner l'antisémitisme, mais qui a aussi un gros inconvénient en matière de débat politique, qui est que cela empêche de facto toute voix un peu discordante ou tout rappel, ce qui était notre souhait, au fait que c'est l'ensemble des actes racistes qui doit être condamné et qui augmente aujourd'hui dans notre société. Et que donc, s'il y a évidemment une lutte contre l'antisémitisme et une condamnation sans ambiguïté à avoir sur les actes antisémites, cela ne doit pas faire oublier l'ensemble des autres formes de racisme, et que sur un certain nombre de ces autres formes de racisme, les propos de Laurent Wauquiez et de sa famille politique ont également jeté de l'huile sur le feu et alimenté une forme de rejet et un certain nombre de, d'actes de discrimination. C'est ce que nous avons voulu essayer de porter. Je ne sais pas si nous l'avons fait de manière maladroite. Toujours est-il que au moment de la prise de parole de notre élu sur ce sujet, l'Assemblée a été très chahutée. Notre élu a été hué et les choses sont montées dans les tours. Peut-être n'était-ce pas le moment opportun. Peut-être la forme n'était-elle pas la bonne à ce moment-là. En tout cas, je continue à penser qu'il est important de rappeler ces faits-là et de rappeler aussi qu'il y a des pompiers pyromanes qui ont beau jeu de se draper dans une forme de vertu républicaine lorsque, par ailleurs, ils ont des propos, que ce soit envers les personnes de confession musulmane, envers les migrants, les réfugiés, quand ils ne souhaitent pas les accueillir sur le territoire régional, par exemple, mais aussi envers ce qu'il appelle les assistés, hein, en matière sociale, les bénéficiaires du RSA, les chercheurs d'emploi, en son temps de campagne régionale, les arts du cirque. Enfin voilà, quand on a une parole qui elle-même est violente, je trouve qu'il est toujours un peu difficile de venir condamner les violences en se drapant de vertu républicaine. Donc on a voilà, essayé de rappeler ça avec voilà, un moment qui a été très chahuté dans l'Assemblée et du coup assez pénible à vivre. Et à contrario, la parole effectivement des élus du Front National, puisque tous les groupes se sont exprimés et ont eu la possibilité de déposer des amendements, s'est-elle faite dans un silence total, alors dont je pense une partie relevait d'un silence glacé, puisque nous avons eu droit à un certain nombre de propos particulièrement abjects, notamment un espèce de parallèle sur la situation en Israël, comparant les Palestiniens à des terroristes et faisant le parallèle avec la situation en France de manière totalement confuse. Et là aussi, avec une parole qui elle-même est porteuse d'une violence qui, moi, me paraît gravement responsable aujourd'hui à tenir dans un tel hémicycle.
Renforce le communautarisme, hein, de fait. C'est ça.
Absolument, voilà. Tout à fait. Ouais. Et puis légitimise, de fait, une forme de violence, notamment envers ceux qui soutiennent, par exemple, la cause palestinienne en France. Donc cela s'est fait, par contre, dans un silence total. Là, il n'y a pas eu de huée, il n'y a pas eu de remarques, il n'y a pas eu de rappel à l'ordre.
En même temps, vous êtes respectueux, donc ce n'est pas vous qui alliez
non. Non, effectivement, nous ne huons pas. Et du coup, il y a eu deux amendements du Front National. Un qui a été, dont l'herbe a été coupée sous le pied par un amendement de l'exécutif, puisque l'exécutif, qui est lui-même porteur de ces délibérations, a le droit de s'auto-amender. Et donc, l'exécutif a lui-même déposé un amendement qui... visait à rajouter, je cite, à propos de la lutte contre l'antisémitisme, de rajouter « aussi bien nourri par le négationnisme et les extrêmes que par l'islamisme fondamentaliste ». Et il a été présenté donc par l'exécutif alors qu'il existait un amendement du Front National qui demandait de préciser « lutte contre l'antisémitisme et le fondamentalisme islamiste ». Et l'amendement présenté par l'exécutif a été adopté, évidemment sans nos voix. Je dis évidemment sans nos voix parce que quand on a le souci de se documenter sur ces questions et qu'on regarde pas seulement les tribunes des éditocrates et les points de vue de Bref de Comptoir, eh ben on se rend compte que tous les rapports de chercheurs disent qu'il n'existe pas de nouvel antisémitisme, qu'il n'y a pas d'antisémitisme spécifiquement lié à la question de l'islamisme fondamentaliste et que malheureusement c'est bel et bien toujours le même antisémitisme auquel nous avons à faire face aujourd'hui que celui qui avait cours dans les années 30 et ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc nous avons voté contre cet amendement qui malheureusement a tout de même été adopté pour la plus grande joie donc à la fois de l'exécutif et du Front National. Et puis nous avons eu également à l'occasion de cette délibération dont on craignait qu'elle n'apporte le pire, et ce que ça a effectivement été le cas, puisque c'est malheureusement un sujet sur lequel aujourd'hui il est vraiment difficile d'avoir un débat honnête et apaisé. Un amendement déposé là aussi par le Front National, je ne sais pas, j'hésite à en lire un extrait, mais en même temps je crois qu'il est suffisamment édifiant pour être lu. Alors je cite... avec plein de guillemets.
On voit, on a le papier devant nous avec le logo horrible.
Voilà, cet amendement dit par exemple, je cite, « À titre d'exemple, on peut affirmer qu'il existe une proximité philosophique entre l'islamisme qui insulte une femme dans la rue parce que sa jupe ou sa robe est trop courte et le féminisme islamo-gauchiste, intersectionnel et inclusif qui prétend que montrer un joli fessier dans une publicité de jeans ou de sous-vêtements est un acte irrespectueux ou dégradant pour les femmes et à ce titre devant être interdit. » Je ferme les guillemets. Voilà, le Front National qui arrive donc au détour... d'une délibération pour la lutte contre l'antisémitisme à nous mettre dans le même paquet le féminisme, l'islamisme, le fait d'avoir le droit de voir des fesses dans des publicités et que cela soit considéré comme une bonne chose, un joli fessier, enfin bon bref. Voilà, c'est en même temps des amendements qui sont des moments où on se souvient de ce qu'est le Front National, malgré toutes les tentatives pour se redonner un visage aimable, comme on peut le voir dans un certain nombre de médias dominants.
C'est-à-dire surtout n'importe quoi, parce que franchement, ça n'a pas lieu au débat. Mais bon, en tout cas, la femme a une place choyée au Front National, c'est peut-être ça qu'il faut rappeler.
C'est ça. Et puis au final, cette délibération a quand même donc pris beaucoup de place. Une matinée entière, une session houleuse tout un tas de propos dans tous les sens sur tout un tas de sujets qui n'avaient rien à voir pour au final adopter une délibération, il faut le préciser, qui ne fait que reprendre des dispositifs existants La seule nouveauté en réalité de cette délibération annoncée en grande pompe et qui a fait l'objet d'une communication très importante de la part de la région, en réalité la seule nouveauté, contrairement à ce qui a été dit, c'est un dispositif spécifique d'accompagnement pour des visites scolaires fléchées uniquement à destination de 8 lycées privés confessionnels juifs. Et non un plan de sécurisation de déplacement scolaire pour tous les lycées qui le souhaitent. Donc on est voilà, sur du très spécifique, du très ciblé. Lycées juifs qui, je dois le dire, sont déjà sécurisés par la police nationale. Et donc tout ça, malheureusement, au nom d'une cause juste, ressemble fort à un effet de communication. D'une certaine manière un kidnapping du débat, puisque le débat n'a pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions sur cette question qui pourtant mérite mieux.
Et pour conclure, peut-on imaginer que ça ne va rien changer ?
Malheureusement, très honnêtement, je n'ai pas eu le sentiment effectivement que cela apportait ni beaucoup de réponses, ni la possibilité, une fois de plus, d'avoir un vrai débat en profondeur sur les racines et les causes et la manière dont on lutte contre ce fléau de l'antisémitisme et contre l'ensemble des discriminations raciales.
Voilà, mais quand on sait que ce débat s'est quand même tenu et avec votre retour là, mais il y en aura sans doute d'autres qui vont exprimer ce qui s'est passé pendant ce débat, est-ce que ça ne risque pas, au contraire, de continuer à alimenter la machine, de voir qu'il y a un certain nombre de lycées très ciblés, encore une fois, dans un délire communautaire, hein, ça alimente.
C'est une des mises en garde qui ne sont pas suffisamment lues et analysées, je pense, par la plupart des responsables politiques, qui est portée par l'UJFP, l'Union des Juifs pour la Paix, que nous avons d'ailleurs cité ou essayé de citer dans notre intervention, et qui, tout en reconnaissant naturellement la spécificité des actes antisémites, met en garde sur le fait de les mettre à part et de les distinguer d'autres formes de racisme et de xénophobie, avec ce risque justement de renforcer le fait que les Juifs fassent l'objet de soit des cibles particulières et l'objet de d'attaques particulières. Et donc voilà, moi je crois que la plupart des responsables politiques feraient bien de lire ce que dit aussi l'UJFP et pas uniquement ce que dit le CRIF ou la LICRA, et d'aller regarder l'ensemble des avis avant de se faire une opinion et surtout de décider de politiques publiques qui orientent effectivement le débat et pas toujours dans un sens très très apaisé et très productif.
Sans transition, toujours adoré dire ça un jour. Voilà, c'est fait. On va parler de la formation professionnelle. Bon, on était à peu près au courant, mais on persiste, on signe en région Auvergne-Rhône-Alpes. On fera ça tout seul dans son coin et comme on a envie.
Ouais, c'est vraiment un des sujets qui nous met en colère depuis le début du mandat. C'est la manière dont la région semble délaisser effectivement cette compétence qui est une de ses grandes compétences historiques et en matière budgétaire, qui est la formation professionnelle. Et sachant que dans cette branche de la formation professionnelle, il y a notamment tout l'accompagnement des personnes en recherche d'emploi, de reconversion pour justement retrouver une activité. Et depuis le début, la formation professionnelle est vraiment le parent pauvre des politiques de la région, depuis le début du mandat. Et là, il se trouve qu'on a de nouveau vu entériner le fait que la région Auvergne-Rhône-Alpes refusait de contractualiser avec l'État sur le PIC, qui est le plan investissement compétences. Et en refusant de contractualiser avec l'État, en fait, la région se prive d'un budget de 650 millions d'euros en matière de formation professionnelle. Ce qui veut dire concrètement que les chômeurs de niveau 4 et 5, c'est-à-dire les plus éloignés de l'emploi, en fait, ne vont pas bénéficier d'aide à laquelle ils auraient pu bénéficier en termes de formation et de remise à l'étrier pour retrouver une activité professionnelle. Avec des raisons honnêtement qu'on... Moi j'ai toujours un peu du mal à comprendre. On nous explique que c'est pour des raisons budgétaires. C'est vraiment un des sujets sur lesquels je crois on touche du doigt des divergences politiques, idéologiques fondamentales. Où la région nous explique que c'est pas une question d'argent c'est un problème d'organisation, c'est un problème de volonté, c'est un problème de je sais pas quoi. Sans doute ça rejoint les discours qu'on a pu entendre sur le fait que les chômeurs seraient désassistés. En tout cas, voilà, nous notre conviction est que cet argent est nécessaire à la formation professionnelle et que y renoncer est une responsabilité grave pour la région. Qui, de fait, abandonne une de ses compétences les plus importantes.
Alors, on aurait pu entendre un vrai débat de contestation de ce PIC qui a été mis en place par le gouvernement de la République En Marche et qui a été lui-même contesté. Beaucoup de régions se sont levées politiquement contre un... Mais bon, là, effectivement, passer à côté de la manne financière quand même. Est-ce que c'était peut-être pour ne pas valider, s'opposer vraiment, vu la place que Laurent Wauquiez aussi, encore une fois, on parlait de son ambition
Mais disons que, en fait, il y a effectivement, on peut avoir le débat et on peut émettre des critiques et nous les premiers, on n'aurait pas fait les choses de cette manière-là au niveau du gouvernement. Après, ce qui est quand même marrant, c'est que c'est nous qui sommes généralement traités d'utopistes, le camp en face étant censé être le camp du pragmatisme. Et là, en l'occurrence, on a le sentiment que c'est au nom effectivement de divergences idéologiques qu'on renonce à 650 millions d'euros. Alors que dès qu'on demande des aides pour un certain nombre de projets locaux, on nous explique qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Donc pour le coup, c'est les moments où nous, on a très envie d'être très pragmatiques et de prendre l'argent quand il y en a, surtout pour des missions aussi importantes que d'accompagner les chômeurs dans notre région, quoi. Donc c'est là où pour nous c'est assez incompréhensible, quelles que soient les critiques qu'on peut émettre par ailleurs sur la manière dont ce gouvernement macroniste met les choses en place, et Dieu sait si on en a.
On va terminer, Corinne Morel-Darleux, avec votre activité, j'allais dire principale hein, en ce moment, en tout cas suivre, promouvoir et permettre d'amener sur la place médiatique, j'allais dire, le mouvement Extinction Rébellion qui est un petit peu partout dans le monde, ici en France, tout ce qui s'est passé sur les grèves du climat proposées par la jeunesse. Et donc vous avez proposé un vœu à la région aussi pour qu'elle se positionne là-dessus.
Oui, tout à fait. On essaye le plus possible, quand on en a la possibilité, de faire quand même des ponts aussi entre ce qui se passe dans le monde extérieur, dans la vraie vie, et puis ce qui se passe dans l'institution. Et donc là, je crois qu'il n'a échappé à personne que quand même depuis plusieurs semaines, ça bouge beaucoup du côté du climat, de la jeunesse. Il y a eu un certain nombre de marches pour le climat. On a eu une très belle mobilisation des jeunes de la cité scolaire le 15 mars qui, ont fait grève, ont fait une clean walk, c'est-à-dire qu'ils ont déambulé en manifestant et en nettoyant les rues, le skatepark, les abords de la Drôme pour parler justement de climat, de pollution, d'environnement. Ils ont fait des ateliers, ils ont débattu entre eux et avec tous ceux qu'ils souhaitaient devant le collège-lycée, à l'espace social. Enfin voilà, ils ont vraiment fait tout ça en plus avec une très belle énergie et des débats super intéressants sur tout un tas de sujets. Le lendemain, a aussi eu sa marche pour le climat le samedi 16 mars, là aussi avec plein d'animations, une halte à la gare pour parler du train. Une grosse participation à la fois le vendredi et le samedi. Et naturellement, tout ça s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large qui a lieu en France, un peu partout en Europe et de manière encore plus large dans le monde face à l'accélération de la dégradation à la fois en matière de dérèglement climatique, puisque les rapports se succèdent et sont de plus en plus alarmants, non pas alarmistes, parce que je crois qu'ils sont malheureusement assez lucides, mais alarmants, et du côté aussi de l'extinction de la biodiversité, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'elle a des conséquences tout aussi dramatiques pour notre société. Et du coup, on a vu beaucoup toutes ces manifestations, toutes ces marches, et puis il se trouve que depuis octobre dernier, s'est aussi lancé un mouvement international qui s'appelle donc Extinction Rebellion, qui s'est lancé fin octobre dernier en Angleterre, et qui aujourd'hui est en train de se lancer dans plus d'une centaine de pays, avec une progression assez fulgurante, parce que je crois que c'est un mouvement qui répond à une envie d'une autre forme de radicalité dans l'action. C'est-à-dire que Extinction Rebellion, à la différence, et peut-être de manière complémentaire avec les mouvements climat existants, fait le constat que demander des choses au gouvernement ne fonctionne pas, que faire des manifestations, des pétitions, des marches pour le climat ne suffit pas, et qu'il faut donc changer de braquet, passer à la vitesse supérieure et lancer un mouvement à l'échelle internationale de désobéissance civile à grande échelle, avec une manière en fait d'agir qui soit peut-être plus disruptive, comme dirait notre cher président. Et donc ils ont commencé à Londres par bloquer des rues, par bloquer les ponts de Londres, par bloquer des sommets consacrés à des questions d'énergie, de climat, d'environnement, et à se faire entendre avec le soutien de nombreuses personnalités légitimes et reconnues dans le domaine scientifique, mais aussi l'ancien archevêque de l'Église britannique, des personnalités du showbiz, de la musique, enfin voilà, avec plein de soutiens internationaux. Et donc en France, ce mouvement a commencé à se constituer aussi et s'est lancé place de la Bourse à Paris, et donc va commencer ses actions de désobéissance avec un message très fort, me semble-t-il, qui est que toutes les personnes, plusieurs centaines de personnes à ce jour qui ont signé la tribune de déclaration de rébellion de ce mouvement, se déclarent aujourd'hui, face à la gravité et à l'urgence de la situation, prêtes à désobéir, c'est-à-dire à aller vers l'illégalité, dans le principe de la non-violence, mais prête à désobéir et prête pour cela à se faire arrêter et à être emprisonné. Ce qui, évidemment, change de tonalité et montre bien, je crois, le sérieux avec lequel la situation est prise par les militants d'Extinction Rebellion, avec comme revendication de déclarer une sorte d'état d'urgence climatique et de la biodiversité, de demander à ce que la vérité soit dite au niveau des médias et des pouvoirs publics, puisque nous estimons que en fait ça devrait faire la une de tous les journaux chaque jour qui passe, avec un point d'étape quotidien sur ce qui est fait, demandant justement à ce que des choses soient faites en termes de politique publique, avec un objectif de descente énergétique et de décroissance planifiée pour atteindre le zéro émission nette et la neutralité carbone d'ici 2025. Le fait d'arrêter dès aujourd'hui tout projet allant vers la destruction du vivant, à la fois en termes de climat et de biodiversité, et demandant enfin à ce que tout ça soit placé sous le contrôle d'une assemblée citoyenne, puisque nous ne faisons plus confiance au pouvoir en place, et notamment au gouvernement Macron.
Alors vous êtes passé de la présentation du mouvement Extinction Rebellion à parler de nous. Vous avez donc signé cette charte, Corinne Moët-Darleux. Vous pouvez être emprisonné, ça y est.
Tout à fait, j'ai signé cette tribune et j'ai pris la parole place de la Bourse à Paris au moment de lancement de ce mouvement. Et je fais partie effectivement des militants qui y contribuent et qui vont y contribuer. Et il me semble qu'en faisant ça, je le fais en cohérence avec tous les engagements que j'ai pris publiquement jusqu'ici, que je continue de prendre. Et surtout, coup avec l'analyse que ce que nous avons prôné jusqu'ici n'a pas suffi et qu'il est désormais légitime, à défaut d'être légal, de changer de mode d'action pour préserver ce qui peut encore l'être et tout simplement les conditions peut-être même de vie humaine sur Terre.
Et on revient vite fait à la région, du coup il y avait un vœu. Il est passé.
Alors, il y avait un vœu, effectivement, qui demandait à ce que la région demande à l'État de prendre en compte le manifeste pour le climat de la jeunesse, puisque tous ces jeunes, en plus, ont rédigé un manifeste. Voilà, il y avait un certain nombre de demandes qui allaient dans ce sens-là. Malheureusement, c'était en fin de session, donc on n'a pas vraiment eu le temps du débat et le vœu n'a pas été adopté, mais ça ne nous empêchera pas de continuer à exiger de plein de manières différentes, dans l'institution et hors l'institution, à ce que ces exigences soient reconnues et prises en compte.
On se revoit quand ?
Eh bien, c'est une excellente question parce que je n'ai pas noté les dates, bon. Mais certainement très rapidement.
Bon, bah donc à la prochaine aux auditrices, auditeurs de ce compte rendu de mandat radiophonique. Corinne Morel-Darle, merci.
Merci à vous.
Et à la prochaine.
Interview. Okay, the bird.